Le 18 janvier dernier avait lieu la séance ordinaire de la MRC Haute-Côte-Nord, la toute première pour l'année 2022. Donc, il y a eu plusieurs points qui ont été abordés pour justement résumer cette séance et pour nous donner davantage de l'information. On a la préfète de la Haute-Côte-Nord, Mme Anquetil. Bonjour, Mme Anquetil.
Bonjour.
Donc, cette séance qui a eu lieu, comme à l'habitude de tous les maires et mairesses des municipalités, il a été question de plusieurs trucs, dont entre autres des ententes de services, des appels d'offres qui ont été aussi octroyés pour différents contrats dans le secteur.
Exact. Alors, on a eu premièrement une entente de services professionnels en ce qui concerne le volet juridique des affaires de la MRC. Alors, oui. On est déjà sous contrat avec la société Cain Lamar de Rimouski, mais on était dans un renouvellement d'entente à ce moment-là. Une entente, en fait, qui vient fixer différents services et les tarifs à ce moment-là, parce que, vous savez, on a une façon de travailler. Des fois, c'est juste un conseil téléphonique qu'on a besoin. Parfois, on a besoin, bien sûr, que les avocats nous donnent un avis écrit. Donc, tout ça est contenu dans une entente qu'on a souhaité renouveler puisque nous sommes entièrement satisfaits des services.
Oui, donc de ce côté-là, c'est une société avec qui vous faites affaire à Chicoutimi pour évidemment des raisons aussi très, très évidentes qu'il n'y a pas cette même société d'avocats pour la Haute-Côte-Nord en tant que telle.
Tout à fait.
Il y a eu aussi un appel d'offres pour un remplacement au niveau de la bâtisse de la MRC.
Absolument. On a même trois appels d'offres qu'on va lancer pour l'entretien de notre bâtiment. Alors, premièrement, on parle de l'unité de ventilation. Alors, ça date quand même du début des années 2000. Oui. Je pense que c'est 2002-2003 que ça a été installé. Donc, c'est inspecté aussi annuellement. Et à l'automne dernier, la compagnie Honeywell, fait notre inspection annuelle, vraiment nous a dit, bien écoutez, votre système de ventilation, il est à toute fin pratique en fin de vie. Il y a d'ailleurs des bris récurrents qui font en sorte qu'à un moment donné, on évalue là, qu'est-ce qui est mieux de faire. Et la recommandation, c'était bien sûr de faire une nouvelle installation de ventilation. Ce qu'on a donné comme contrat hier, comme mandat, c'est que premièrement, on va faire affaire avec des experts dans le domaine de la ventilation pour avoir le bon système. Donc, on va vers des ingénieurs en bâtiment avec expertise dans le domaine de la ventilation. Il faut avoir un système qui est vraiment qui répond à nos besoins. Ni trop gros, ni trop petit. Et ça, bien, c'est fort important à la lumière de l'utilisation des bureaux d'aujourd'hui, qui est différent, évidemment, 20 ans plus tard que le système a été installé. En même temps, bien ça, c'est la phase numéro un, parce qu'on veut que ce système-là, évidemment, aussi puisse être supporté par les conduites qui sont déjà en place dans le bâtiment pour réduire nos coûts. Alors, c'est important. Par la suite, bien, on ira au niveau de la toiture. Et on le fait dans une séquence seconde phase, hein, parce qu'on ne veut pas aller briser la toiture si on fait la ventilation après. Alors, notre toiture, elle aussi, elle date de plus de 22 ans. On est en préventif quand même. Il faut bien dire que la toiture, on n'a pas d'infiltration d'eau présentement, mais il ne faut surtout pas en avoir. Ça va de soi. Mais après 22 ans, on voit que, moi j'emploie l'expression, les tuiles commencent à friser.
Oui.
puis elles frisent et elles ont changé de couleur. Alors, c'est vraiment des indices qui font qu'il faut vraiment y voir. Et en plus, il faut maintenant, dans les règles de santé-sécurité, évidemment, penser à la conformité des ancrages qui pourraient être nécessaires pour que des employés puissent accéder à la toiture.
Au besoin,
alors, après l'unité de ventilation, donc on ira, on va en appel d'offres pour faire la toiture, incluant les ancrages qui sont nécessaires maintenant. Et par la suite, bien, on veut faire aussi du revêtement, particulièrement dans le pourtour de nos fenêtres. Ce n'est pas qu'on va changer les fenêtres, en tout cas, on ne croit pas que ce soit nécessaire, mais il faut aller faire, évidemment, aller voir les fissures qui, au fil des années, sur tout bâtiment, apparaissent et peuvent donner lieu à de l'infiltration dans les murs, situation, évidemment, qu'on ne veut pas vivre et qu'on veut vraiment prévenir. Mm-hmm. Alors, on ira en appel d'offres. On souhaite vraiment que nos entrepreneurs de la Haute-Côte-Nord soient présents, répondent présents à ces appels. Et on veut faire en sorte donc de donner une cure de rafraîchissement à notre bâtiment.
Mm-hmm. Et je trouve ça intéressant qu'on rappelle aux entrepreneurs de la région, du secteur, que lorsqu'il y a un appel d'offres, bien évidemment, vous êtes les premiers à être invités à lancer justement cette première demande. Les gens peuvent voir l'appel d'offres une fois sur le site Internet de la MRC Haute-Côte-Nord.
Oui, on va pouvoir le voir sur le site Internet, mais comme on va en invitation, vous savez, on a une liste des entrepreneurs de notre territoire. Et on va les solliciter individuellement. Et on souhaite vraiment qu'ils nous répondent présents. C'est la façon de faire. C'est sûr qu'on a un défi à l'heure actuelle dans le cadre de la COVID. Nos entreprises sont déjà surchargées.
Ouais.
Ils ont des problématiques de main-d'œuvre comme tout le monde. Mais on souhaite vraiment que ça puisse rayonner auprès de nos entreprises locales. Sinon, ben effectivement, il faudra aller hors territoire, mais on est tous les maires, on est très soucieux du développement de nos entreprises. Alors, on a là, donc, c'est sûr qu'au niveau du système de ventilation, je ne sais pas si quelqu'un pourra nous donner par la suite une réponse à l'appel d'offres. On va voir qu'est-ce que les ingénieurs vont nous recommander, premièrement. Mais au niveau du bâtiment, ben, on est convaincu que nos entreprises peuvent répondre favorablement à ces appels d'offres.
Mm-hmm. Il y a un autre appel d'offres aussi pour une certaine conception, c'est la fabrication et l'installation d'enseignes pylônes dans quelques entrées du territoire. On parle de Tadoussac, Sacré-Cœur et Colombier.
Exactement. Alors, ça fait déjà quelques années qu'on y réfléchit. Souvent, quand on voyage, on voit dans les entrées de territoire, puis on le fait dans nos municipalités, bienvenue à Forestville, oui. Bienvenue aux Escoumins, etc. Mais on n'a pas sur notre territoire bienvenue à la MRC Haute-Côte-Nord. Et ça porte parfois à confusion. On pense que Tadoussac est dans Charlevoix. On pense que Sacré-Cœur est dans le fjord du Saguenay.
Tout à fait.
Alors, on comprend, puis c'est très légitime parce qu'en fait, on n'a pas d'affichage. Et c'est ça qu'on a résolu hier. Donc, on veut faire 3 affichages, vous l'avez bien dit. Donc, du côté de Sacré-Cœur, Tadoussac à la sortie du bateau et à la rivière Berzémis entre le territoire de Pessamite et celui de la Haute-Côte-Nord. Donc, 3 enseignes. Donc, on a donné mandat, premièrement, conception. Par la suite, ce sera fabrication et installation. Mm-hmm. Alors, on veut des beaux panneaux. On veut être fiers de notre territoire. Quel sera le visuel? Quel sera le message? Bien, c'est ça. On va en appel vers des firmes qui sont en mesure de nous conseiller, puis on fera des choix à ce moment-là. Mais c'est une priorité faire ces affichages, installer ces pylônes-là avant la saison touristique. Donc, ce
point. Oui. Et il y a un processus qui va être octroyé d'un contrat par une demande de prix pour une mise à jour d'une étude qui était déjà débutée. Et c'est une bonne nouvelle là, quand on pense évidemment à l'environnement sur le compost sur le territoire de la Haute-Côte-Nord.
Exact. Alors, vous savez, on a un plan, on appelle ça le PGMR, je le dis, c'est le plan de gestion des matières résiduelles. Mm-hmm. On dépose au gouvernement ce plan qui est la planification, dans le fond, et de ce qu'on doit faire. Hein. On a des obligations, récupération, collecte, etc. Et le compost fait toujours partie là, d'une partie des déchets, des résidus
oui.
qu'on veut valoriser. Alors, on avait une étude en 2014 avec différentes options. On n'a pas pu aller de l'avant de ce côté-là. Fait qu'on demande tout simplement une mise à jour parce qu'aujourd'hui, ce sujet-là des matières résiduelles, là, il concerne, je dirais, le monde entier.
Tout à fait.
Il y a beaucoup d'avancements technologiques dans ce domaine-là.
Mm-hmm.
Et on veut faire donc notre mise à jour de 2014-2021. Là, il y a des procédés qui ont changé, il y a de la technologie. Donc, on veut être bien conseillé pour évidemment prendre de bonnes décisions par rapport au compost.
Oui, parce que souvent, c'est une question que les citoyens peuvent se demander quand on compare évidemment avec d'autres régions qui ont le compost, qui ont le recyclage et qui ont les déchets. Bien, de notre côté, on n'a pas encore le compost, mais vous venez de répondre. Oui. Il y a beaucoup, beaucoup de détails qui doivent être mis en place. Et c'est aussi un très, très large territoire, la Haute-Côte-Nord. Là. Donc, ça prend une étude, puis ça prend aussi beaucoup de solutions là, pour avoir droit au compost.
Oui, puis vous savez, on a fait des expérimentations de compost plus individuel, les cônes verts. Il y a eu des expériences de compost, par exemple, à Tadoussac, avec le Grand Hôtel. Il y a eu toutes sortes d'expériences. Mais en même temps, vous savez, c'est un changement de comportement hein, pour nos citoyens. Alors, bien sûr, on avait premièrement le bac vert, après ça, le bac bleu dans le récupérable. Et on est encore à l'effet de sensibiliser la population, poser les bons gestes hein, avec la récupération dans le bon bac, faire attention pour ne pas aller contaminer le bac bleu de récupération par des objets qui ne vont pas. Qu'est-ce qui va dans chacun des bacs? Et évidemment, de là à ajouter le compost, ben, on voulait quand même que les comportements soient assez avancés au niveau, premièrement, de nos collectes, nos deux premières collectes. Et maintenant, au niveau du compost, bien évidemment, ça nous questionne, est-ce que c'est une troisième collecte? Il y a des municipalités, il y a des territoires qui vont sur une troisième. Il y a aussi d'autres façons de penser le compost. Oui. Alors, c'est là que c'est important de prendre les bonnes, d'avoir les options, d'avoir les coûts associés, puis de voir, nous, où est-ce qu'on va se placer par rapport à ça.
Et pour si on change de sujet, vous avez parlé aussi pendant cette séance des agents de développement municipaux qui sont évidemment primordiales dans chacune des municipalités, mais dans un certain cadre politique, il y a un soutien le financier qui sera donné.
Absolument. Alors, les agents de développement municipaux, ça date vraiment de plusieurs années. Au niveau de la MRC, c'est le PAC rural à l'époque, on s'en souviendra. Maintenant, la MRC soutient financièrement chacune des municipalités, donc les 8 municipalités, pour aider à se revitaliser, donc un montant maximum de 30 000 $ dans un poste à temps complet. C'est-à-dire que s'il y a des absences dans une municipalité, bien évidemment, la MRC va réduire sa contribution financière. Mais s'il y a présence à temps complet d'une année, bien, la MRC peut octroyer à la municipalité 30 000 $ Et la municipalité fait la différence, évidemment, qu'un poste à temps complet est au-delà de 30 000 $ hein, dans nos municipalités, mais l'autre partie est à la charge de chacune des municipalités. Fait que c'est quand même une contribution de la MRC de 240 000 $ Alors, les agents de développement municipaux, c'est professionnels si précieux pour présenter des projets, pour développer, pour travailler avec nos organismes localement. Alors, vous savez, les maires sont très soucieux, sont très préoccupés par leurs agents de développement.
Oui.
Ils viennent garantir beaucoup de vitalité, de dynamisme sur chacun de nos territoires.
Ça contribue. C'est souvent les acteurs principaux là, pour informer les citoyens quand il y a des nouveaux projets. Comme vous l'avez dit, quand il y a de la vitalisation dans une municipalité, il y a beaucoup de travail derrière d'un agent municipal.
Tout à fait.
Il y a une nouveauté que vous avez élaborée hier avec en partenariat avec Desjardins, avec Créavenir, qui est à la base fait pour aider une nouvelle entreprise ou une jeune entreprise de 3 ans et moins. Et c'est vraiment fait pour les jeunes, donc les 18 à 35 ans. La MRC, en travaillant en collaboration avec Desjardins, bien, ça permet en fait de faire connaître ce programme et on invite en fait tous les jeunes entrepreneurs qui ont une entreprise de 3 ans et moins ou qui débutent une entreprise en Haute-Côte-Nord d'entrer en contact avec Desjardins parce que c'est un projet qui pourrait aider financièrement parlant cette entreprise-là. Là.
Exactement. Alors, vous savez qu'au niveau de la MRC, au cours des dernières années, on a eu beaucoup, beaucoup de fonds de développement, dont, entre autres, des fonds qui s'adressent carrément à la jeunesse, aux jeunes entrepreneurs. Alors, à l'intérieur de nos propres programmes, on reçoit beaucoup de demandes. Mm-hmm. Et en fait, ce qu'on veut faire, c'est aussi les aider davantage. Donc, on a conclu une entente de travail avec Desjardins Centre des entreprises Côte-Nord pour qu'on puisse, nous, faire autant la promotion de leur programme de subvention, y référer hein, nos jeunes que nous, on a analysés et qu'on a aidés Donc, travailler davantage ensemble pour que les jeunes aient davantage de soutien, soutien financier et soutien au développement de leur entreprise, leur initiative d'entreprise. Alors, on fait une entente de partenariat avec Desjardins Centre Entreprise Côte-Nord. Dire, on va travailler ensemble.
Oui. Et en allant lire un petit peu sur le programme, vous allez avoir aussi de l'aide. Donc, un jeune entrepreneur peut avoir de l'aide pour mettre en place son plan d'affaires. Donc, c'est vraiment très, très intéressant là, et ça peut évidemment aider la Haute-Côte-Nord à la création de nouvelles entreprises. Et pour terminer, la ville de Forestville a fait un dépôt d'appel d'intérêt à tous les gens qui pourraient être intéressés pour le déploiement du service traversier Rimouski-Forestville qui, on le souhaite, sera de retour peut-être l'été prochain. Donc, évidemment, on invite, la MRC invite chaque personne, chaque promoteur qui pourrait être intéressé à soumettre sa candidature.
C'est-à-dire que c'est une alliance entre ce qu'on appelle, on dit la SOPER, donc oui. C'est la Société de promotion de développement de Rimouski.
Oui.
Du côté de Forestville, c'est la SEDF, la Société d'économie et de développement de Forestville. Nous nous sommes donc alliés, nos deux organismes de développement économique. Nous sommes au même rendez-vous, c'est-à-dire que nous souhaitons, nous voulons travailler au retour du traversier.
Oui.
Pour l'année 2022. Donc, ce que nous avons décidé de faire ensemble, c'est d'aller vers un appel d'intérêt. Hein? Dans un devis, dans le fond, nos deux organismes travaillent inter-rive, donc pour le retour de ce service-là, et demandent en fait à tous les promoteurs, tous ceux qui seraient intéressés à dispenser ce service-là, de démontrer leur intérêt à partir d'un devis, bien sûr, parce qu'il y a certaines exigences, là, type de bateau, capacité, etc., sur lesquelles bien, on y met aussi nos propres engagements, donc de donner accès à nos quais, etc. Alors, on est dans un appel d'intérêt vraiment ouvert à tous, à tous les armateurs qui seraient intéressés à nous desservir. Et l'intérêt, c'est aussi de dire, bien, on ne veut plus que d'année en année, le service soit à reconsidérer.
Ouais.
Ou on veut une pérennité de ce service-là. Il est important pour les citoyens, pour le développement touristique, pour les entreprises d'avoir une certaine garantie que le service va exister d'une année à l'autre. Alors, mm-hmm. dans l'appel d'intérêt, ça fait aussi partie des considérants. Alors, on est à cette étape-là. En fond, d'ouvrir à tous les armateurs, déclarez-nous votre intérêt à nous desservir. Puis la SOPER et la SEDF vont travailler étroitement avec ces organismes-là, puis les seconder et le retour du service qui a démontré d'ailleurs au fil des années son importance, sa réponse aux besoins de la population. C'est un accès à la mobilité des citoyens, c'est nos travailleurs, c'est vraiment important dans le développement touristique, économique et social. Et donc, on travaille inter-rive pour ce retour.
Oui, chacune des rives, vous êtes prêts aussi parce qu'il y a eu des réfections de quai. Donc, évidemment, ça pourrait commencer dès la saison estivale prochaine sans aucun problème.
C'est vraiment notre objectif.
Mm-hmm. Donc, je pense que ça fait le tour pour cette séance, la première de 2022. Évidemment, on est toujours en temps de pandémie. Vous avez aussi pris le temps de le souligner, de ne pas lâcher, de continuer d'encourager les citoyens à respecter les mesures sanitaires en souhaitant évidemment que ce soit encore une question de semaines ou de mois, là.
Et oui, c'est ça. Donc, demander aux citoyens de ne pas relâcher. Hein. On sait qu'il y a beaucoup de fatigue, mais c'est important de demeurer au rendez-vous, de se protéger, protéger nos environnements. Alors, j'ai voulu donner un mot d'encouragement à ce niveau-là.
Mm-hmm. Merci beaucoup pour votre temps, Mme Anquetil.
Avec grand plaisir, comme toujours.